grand dialogue
sigi kafoba
edowani wa makaran
le grand dialogue l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio
chenni biro
halud mauni
chenni biri sigi kafoba
le grand dialogue
le grand dialogue.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Très heureux de vous retrouver ici au Studio Tamani. Studio Tamani qui débat aujourd'hui, qui essaie de réfléchir sur les chances aujourd'hui pour les pourparlers d'Alger 4. Les groupes armés sont à Alger et la médiation compte bien les retenir pour donc relancer les pourparlers dans la capitale algérienne. Et pour le moment, info de dernière minute, le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, et le ministre porte-parole du gouvernement, Choguel Kokala Maïga, sont à la maison de la presse actuellement pour donc annoncer la relance des pourparlers qui se tiendra donc à partir de demain à Alger. Et nous avons comme invité pour débattre de ces chances pour Alger 4, Ousmane Cornio, spécialiste des questions de sécurité, et Mamadou Diouara, sociologue, et enfin un membre du GATIA, Sidi Ahmed Albaka, membre du Gatia. Je rappelle que nous avons fait appel aux membres du MNLA, mais sans succès pour cette invitation. Je suis Famoussa Sidibé, Salim Diouara est à la technique.
Studio Tamani.
Nous sommes donc dans les chances que Alger 4 pourrait avoir aujourd'hui. La réunion d'urgence provoquée par la MINUSMA, suite donc à cette réunion provoquée par la MINUSMA, les groupes armés sont donc à Alger et la médiation compte retenir les groupes armés et la délégation malienne prend donc son envol pour Alger à partir de demain. L'annonce a été faite tout à l'heure par le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, et au même moment, le Conseil de sécurité des Nations Unies lance l'injonction disant que c'est le cessez-le-feu entamé il y a depuis le mois de mai doit être respecté. Et sur ce point, la médiation et les Nations Unies durcissent le ton. Alors nous allons voir avec Ousmane Cornio. Ousmane Cornio, qu'est-ce que cela signifie très exactement, ce durcissement de ton?
Oui, je crois que ce durcissement de ton vient après tout ce qu'a subi la MINUSMA elle-même. Parce que la position de la MINUSMA, c'est d'abord de se protéger, et puis protéger la population. Mais après, elle s'est rendue compte qu'elle n'arrive même pas à se sécuriser elle-même à plus forte des populations, qui fait que le cessez-le-feu lui échappe à toute sa stratégie. Donc, pour pouvoir revenir à la case de départ, c'est de faire appel au Conseil des Nations Unies pour qu'on redéfinisse les choses. Et la redéfinition des choses nécessite une nouvelle réunion, et une réunion demandée par la MINUSMA elle-même à Alger, et qui a précipité la reprise des pourparlers de Alger 4.
Alors nous sommes un peu dans les secrets de Dieu, Mamadou Diouara. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce durcissement de ton? Le Conseil de sécurité qui dit que si les conditions de ce cessez-le-feu-là du 24 mai ne sont pas respectées, qu'il y aura des sanctions ciblées, qu'est-ce que cela peut vouloir dire aujourd'hui?
Bon, je pense que il est important de dire qu'il vaut mieux tard que jamais. Nous sommes dans une situation que la MINUSMA elle-même a créée en commençant à violer les règles même de la résolution qui justifie leur présence. La MINUSMA s'est illustrée dans le laisser-faire quand c'est le MNLA et les HCIA qui faisaient les débordements. Aujourd'hui, que la tendance est en train de changer et qu'on a vu les excès de ces gens qui se sont permis de s'en prendre même à la MINUSMA, je pense qu'ils ont fini par se réveiller de leur sommeil comatique et nous espérons que cela va permettre que les choses aillent plus loin. Peut-être aussi que derrière ça, bon, il y a quelques inquiétudes qu'on peut très bien comprendre. Nous sommes dans un processus qui normalement devrait tirer vers sa fin si la négociation se faisait bien et que les gens respectaient leurs engagements. Et la MINUSMA a pour mandat de veiller à ce que cela soit. Donc s'ils deviennent fermes finalement, nous espérons que les actes suivront les menaces et que ce soit de façon équitable et juste en respect de la loi qui a justifié leur présence ici. Pour le moment, moi, je reste un peu dubitatif.
Alors, Sidi Ahmed Ag Albaka, vous êtes membre du GATIA, IMGAD et Allié. Alors, qu'est-ce que cela veut dire très exactement, vous qui êtes sur le terrain et qui êtes en confrontation parfois avec les membres de la coordination?
Moi, je vous remercie d'abord pour nous avoir une fois de plus donné la parole. Je remercie les auditeurs qui sont à l'écoute en ce moment. Bon, comme je l'ai dit la fois dernière, s'il y a lieu de respecter le cessez-le-feu, moi, je n'ai vraiment pas d'inquiétude parce que de toutes les façons, nous n'avons jamais attaqué. Mais le problème, c'est que l'aménagement se donne des missions qu'elle ne peut pas, dont on ne peut pas assumer la responsabilité. L'aménagement n'est pas en mesure d'exiger le respect de cessez-le-feu. Pourquoi ? Parce que l'aménagement n'est pas neutre. Quand vous avez des enfants devant vous, il y a un autre que vous voulez chérir, vous voulez lui mettre dans des conditions un peu plus à l'aise, et vous essayez de mettre un autre à côté, là vous créez le désordre. Et malheureusement, c'est ce qui arrive aujourd'hui au nord du Mali. Si l'aménagement était resté seulement dans sa tâche, sa mission, et on n'allait vraiment pas connaître ça. Nous, de la plateforme, en tout cas, on a toujours senti que l'aménagement voulait se débarrasser de nous. Je ne sais pas, peut-être parce qu'on a toujours dit non à la division du Mali, on a toujours dit non au fédéralisme, à un statut quelconque. On pense que nous sommes tous des Maliens de Kaye à Kidal. Et si des jeunes de Kidal ont droit au bonheur, ça veut dire que ceux de Kaye aussi ont les mêmes droits. Mais moi, je pense qu'un cessez-le-feu, on va le respecter, c'est sûr, certains, nous, de la plateforme. Mais aujourd'hui, la communauté internationale n'a pas les moyens pour le faire respecter du côté de la coordination. Pourquoi ? Je ne sais pas pourquoi la communauté internationale est en train de jouer à ces jeux, parce que quelque part, la communauté internationale est en train de couvrir les narcotrafiquants, les djihadistes qui viennent souvent même de la Libye. Il suffit d'avoir les drapeaux d'Yemnela aujourd'hui pour avoir accès à la ville de Kidal et vous allez faire ce que vous voulez. Donc l'aménagement doit, comme quelqu'un l'a dit, doit revoir ses copies. Elle doit essayer d'assumer sa part de responsabilité. Non pas favoriser un groupe par rapport à un autre, il faut en émouvoir. Il faut juste être neutre.
Alors, Ousmane Cornio, il y a un mot que Sidi vient d'évoquer, du Galtien. Il dit que l'aménagement prend souvent des décisions qu'elle ne peut pas, qu'elle n'est pas en mesure d'assumer. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse?
Oui, je crois que l'aménagement, elle est mal partie dès le départ. Parce qu'en fait, j'ai dit que l'aménagement se sent elle-même menacée. Elle n'a pas les moyens d'assurer sa propre protection et sa propre sécurité, à plus forte raison d'assurer la sécurité des autres. En fait, leur action par rapport au MLA, moi je ne pense pas que ce soit parti pris. C'est d'avoir peur. Avoir peur d'être attaqué, parce que ceux qui les attaquent, on a peur d'eux, on essaie de les amadouer. Bon, maintenant que la chose a éclaté, et on a mis à nu leur peur, leur impuissance, leur incapacité, on revient à la base pour essayer de voir est-ce qu'il faut renégocier un nouvel accord, de nouveaux mandats de l'aménagement, ou plutôt il faut précipiter les choses pour que l'aménagement ne soit pas pris entre les deux feux. Parce qu'aujourd'hui, l'aménagement est pris entre les deux feux. L'aménagement n'avait pas pensé au départ avoir les groupes d'autodéfense comme le Gacha derrière. On croyait seulement qu'il y avait l'armée malienne qui sont parvenus à cantonner et de l'autre côté, il y avait le MLA. Et par leur surprise, ils ont vu d'autres groupes, d'autres défenses se positionner pour défendre leur population. Ce qui fait qu'ils sont désemparés. Et aujourd'hui, ils ont fait appel au Conseil national de sécurité qui, rapidement, avec l'appui de la France, on a vu Hollande intervenir, et souhaite précipiter rapidement les choses pour avoir un accord, afin de savoir réellement quel est le visage de chacun des intervenants sur le terrain.
Alors aujourd'hui, Ousmane Cornio, la communauté internationale change de ton et de façon de faire. Aujourd'hui, la MINUSMA tente de reprendre la main, si on peut dire ça comme ça. Est-ce que cette langue de bois qu'on mettait en avant laisse désormais la place aux actions militaires?
Oui, les actions militaires, l'aménagement n'en a pas les moyens. C'est Barkhane qui a les moyens des actions militaires. Et on voit même à Kidal que leur camp a été saccagé. Ils n'ont pas pu se protéger eux-mêmes.
L'aérodrome,
je veux dire, a été saccagé. Ils n'ont pas pu se défendre eux-mêmes. L'aménagement n'a pas les moyens de sa politique. qui fait que, avec l'intervention du Barkhane, avec l'entrée en jeu aujourd'hui de la France a vraiment une position. Il faut qu'on en finisse. Parce qu'en signer un accord, ça permet de découvrir le visage de chacun des intervenants.
Alors, quand vous dites que l'AMUNISMA aujourd'hui, je vous donne la parole tout à l'heure, quand vous dites que l'AMUNISMA aujourd'hui n'a pas les moyens d'appliquer ce qu'elle entend faire sur le terrain, est-ce que cela veut dire que cette menace du Conseil de sécurité ne compte pas et que ça ne vaut rien?
Non, mais en fait, quand on demande de faire signer, parce que la menace qu'a, pour dire, c'est facile, le Conseil ne s'adresse pas à l'AMUNISMA, permet simplement s'adresse aux autres pour que l'AMUNISMA soit protégée. Parce que c'est l'AMUNISMA qui est aujourd'hui menacée. Et même leur action à Gao, c'est par incapacité d'assurer la sécurité.
Quelle peut être la nature de ces sanctions alors?
Bon, les sanctions qui seront adressées aux belligérants, à ceux qui ne vont pas respecter, bon, c'était peut-être de les considérer comme étant des narcotrafiquants, des djihadistes, des terroristes, et les traiter en tant que tels.
Ce qu'on refuse de faire pour le moment.
En fait,
tout en sachant que c'est la vérité.
Alors, Sidi veut intervenir.
Moi, je vais juste essayer de revenir sur ce que le grand frère vient de dire. En fait, je pense que l'AMUNISMA ne manque pas de moyens. Mais l'AMUNISMA a une mauvaise politique. L'AMUNISMA a une mauvaise vision du problème du nord du Mali. Je pense que quand l'AMUNISMA avait débarqué, l'AMUNISMA n'a pas étudié les problèmes du nord du Mali. Elle ne connaît pas les réalités de la crise. En fait, on lui a mis des choses dans la tête et elle s'est imaginé déjà un scénario. Et quand elle est partie sur le terrain, elle a voulu imposer une politique aux populations qui n'a pas marché. Moi, je ne peux pas comprendre. Moi, je suis de Kidal. Je connais tout ce qui se trouve à Kidal aujourd'hui comme mouvement armé. Je peux vous dire peut-être les nombres exacts, le nombre de véhicules, les armes, d'où est-ce que c'est venu. Ces gens ne peuvent pas combattre l'AMUNISMA. Si on va sur le plan d'hommes, sur le plan militaire, il n'y a pas de comparaison. Mais en réalité, ce qu'on ne veut pas dire, c'est que l'AMUNISMA a fait un choix. L'AMUNISMA fait un jeu qui n'est pas neutre. Je vous explique. Je suis parmi le premier jeune qui ont accueilli l'ex-ministre malien, Tatamli. Quand il voulait venir à Kidal, voilà, on avait dit qu'on a les militaires maliens, on tirait sur des civils. J'étais à l'aéroport de Kidal. Et ce qui s'est passé, tous les Kidalouans sont au moins. Et c'est une fabrication pire et simple de l'AMUNISMA. On n'a rien dit. Aujourd'hui, l'AMUNISMA a perdu sa crédibilité.
Alors
c'est ça
aujourd'hui,
le problème.
Malheureusement, l'AMUNISMA en fait, n'est
juste,
pas là pour défendre.
Non, je vais juste terminer. Je vais juste terminer. Quand vous dites, par exemple, la Kidal, ce sont de jeunes et des femmes qui ont délogé l'AMUNISMA de l'aérodrome. L'AMUNISMA ne s'est pas défendu. Mais par contre, à Gao, elle a utilisé des armes contre des civils. Pourquoi? Ceux qui sont à Kidal ne méritent pas de mourir, mais ceux qui sont à Gao doivent être tués. Point de dérogation.
La question qui se pose aujourd'hui, c'est la sécurité de Tabankort. Est-ce qu'il est possible actuellement de considérer Tabankort comme une zone tampon, Ousmane Cornio?
Non, mais vous, si vous suivez Tabankort, c'est sur la route de Gao à Kidal. Al-Moustrat, Tabankort, Adifif, c'est une route que je connais très bien. Bon, en fait, ils avaient considéré ça comme une zone tampon parce qu'ils pensent qu'à partir de Tabankort, déjà, on a Anéfis. Et Anéfis, c'est déjà, on est dans les gérants de l'IMNLA.
On devrait commencer avant, après même Tabankort parce qu'il y a 10 km d'Al-Moustrat. Et on vous rappelle qu'Al-Moustrat est l'armée malienne, le bataillon Waraba et Al-Moustrat. À 10 km, vous voulez placer l'IMNLA?
Non, mais moi, je ne suis même pas pour cette zone tampon.
Ousmane Cornio va terminer et je vous donne la parole.
Je dis, je ne suis même pas pour cette zone,
ce gel de position.
Non, non. Parce que gel de position, ça veut dire que on met les combattants face à face, on les permet de se préparer. Pour moi, il faut aller vers le désarmement.
Alors, donc moi, je dis déjà que nous sommes dans un faux débat. Parce que l'AMUNISMA aurait dû respecter les accords de Ouaga qui disent que le MNLA doit être cantonné et que l'armée malienne devait assurer la sécurité. L'AMUNISMA a violé ces accords de Ouagadougou, a laissé le MNLA se promener, s'armer, se préparer,
oui,
et
Douara,
a laissé le MNLA attaquer.
Entre-temps, il y a eu des évolutions.
Les évolutions ne sont que la conséquence simple Douara. Du laisser-faire de l'AMUNISMA et de la France. Soyons francs dans le débat. C'est-à-dire que la France et l'AMUNISMA ont pris position dès le départ. Ils ont voulu protéger le MNLA et alliés. Ils les ont protégés. Aujourd'hui, ces protégés
sont sortis des gants. Ils ont fait des excès.
Pour vous donner raison, moi je me rappelle encore de cette image de la police malienne. Si elle doit patrouiller à Kidal, il faut un véhicule de l'aménagement devant, un véhicule de l'aménagement derrière.
Même avant ça, le jour où la France est rentrée à Kidal, nous avons les images rapportées par le représentant de Reuters où c'est la France qui a encadré des jeunes qu'on a pris, on les a donné le drapeau pour se balader, dire MNLA, MNLA, Azawad, Azawad, alors que le MNLA n'était pas à Kidal, l'Azawad n'existait pas.
Vous avez beaucoup de choses à dire. Nous allons observer. Nous, on a des contraintes. Nous allons observer juste 2 secondes de pause. Ensuite, on redistribue la parole pour continuer cette émission.
Vous écoutez Studio Tamani. Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
La médiation annonce le départ donc de pourparlers à Alger à partir de demain. Est-ce que cette date sera encore une fois respectée vu que la délégation malienne quitte demain la capitale malienne pour se rendre à Alger? Nous sommes donc dans cette émission qui réfléchit sur cette question, les chances d'Alger 4 pour aboutir à une paix définitive au Mali. Et nous sommes avec 3 invités, Ousmane Cornio, spécialiste des questions de sécurité, Mamadou Diouara, sociologue, et Sidi Ahmed Ag Albaka, membre du GATIA. Je rappelle que nous avons tenté de joindre les membres du MNLA à cette émission et sans succès à cette émission. Alors, nous avons parlé des actions de la MINUSMA et des contraintes qu'elle pourrait avoir dans l'exercice donc de ces missions. Je rappelle que nous ne sommes pas là pour faire le procès de la MINUSMA, mais plutôt de réfléchir sur les actions et les chances pour les pourparlers d'Alger 4 qui doivent normalement s'enclencher à partir de demain. Alors les raisons donc du blocage des pourparlers d'Alger, il y a les tensions dans le nord du Mali. Les groupes armés à la fois de la plateforme et de la coordination sont d'accord pour cette relance, mais encore une fois, est-ce que les acteurs pourront se réunir à Alger pour démarrer enfin cette 4e étape d'Alger? Ousmane Cornu.
Moi, je ne pense pas que encore la situation soit propice à un accord, dans la mesure où je ne pense pas si les protagonistes sont préparés. Je ne connais pas les protagonistes qui sont de l'autre côté, mais du côté de la partie malienne, avoir encore les discussions qu'il y a autour du projet d'accord, il n'y a pas de consensus, il n'y a aucun projet qui a été présenté par le gouvernement à son peuple pour dire que voilà ce que nous allons proposer. Ils s'en vont comme ça, les bras ballants. Ils ont écouté tout le monde. Et là-bas, ils vont essayer de gérer la chose au tir à vue. C'est-à-dire sans avoir préparé. Qui fait que je ne pense pas encore que ces gens s'y sortent, sauf sous pression de la France et des Nations Unies, qu'on les fasse signer. Comme d'habitude, on a l'habitude de les faire signer un accord bidon, un accord qui n'est pas facile à tenir.
Alors, on le constate à partir des approches que la médiation a tenté quelquefois de jouer au plus avec intelligence en retenant les acteurs à Alger et en faisant partir à partir de demain la délégation malienne. Pensez-vous que les partis, les vrais acteurs sont aujourd'hui à Alger, Ousmane Cornu?
Oui, pour la partie malienne, oui, mais je ne pense pas que pour les groupes rebelles, les groupes armés, que vraiment les tenants de la situation au nord soient sur la table de négociation. Et je pense, je l'ai dit à plusieurs reprises, que la situation la plus difficile n'est pas de signer un accord, c'est de pouvoir tenir cet accord. Surtout que ceux qui vont signer l'accord ne sont pas ceux qui sont les tenants de la situation sur le terrain. Ceux qui attaquent, ceux qui attaquent les véhicules, qui attaquent les marchés, ceux qui attaquent les différentes circonscriptions du Nord. Je ne pense pas que ce soit ceux qui sont en train de négocier au Nord. Et qui fait que le seul avantage qu'on peut avoir quand on va signer, c'est de pouvoir découvrir le vrai visage des acteurs. Parce qu'on va se rendre compte qu'on a signé, mais malgré tout, les attaques continuent. Donc, on n'a pas signé avec les vrais acteurs.
Alors, aujourd'hui, on parle d'une réunion d'urgence à Alger. La médiation parle de réunion d'urgence et entend enclencher les actions d'Alger 4, les pourparlers proprement dit, qui vont vont donc s'engager demain. Mamadou Diouara, vous êtes sociologue. Aujourd'hui, on a vu à chaque étape d'Alger, il y a les membres des groupes armés qui demandent à ce que les délégations, toutes les délégations soient présentes avant d'entamer quoi que ce soit. Est-ce que vous pensez que ceux qui sont à Alger aujourd'hui et qui sont en train d'être consultés par la médiation sont les vrais acteurs et pourront parler au nom des groupes armés?
Alors, premièrement, ce que je dis, c'est que nous sommes en train d'aller à une échéance suranticipée. Ça, c'est la conséquence. Parce que même ceux qui sont là ne sont pas préparés pour être là. Alors que pour aller dans une négociation, il faut avoir un cahier de charge et il faut avoir des points de flexibilité prédéfinis de toutes les parties. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc, ce qui fait qu'on risque, comme l'a dit Ousmane Cornéo, je le rejoins, de sortir avec un document un peu en queue de poisson. Par contre, ce que je dis, c'est qu'il est toujours bien de privilégier la paix à la guerre. Nous sommes dans une situation vraiment qui est en train de se dégrader considérablement. Et on ne sait pas quelle évolution ça va prendre. Si on arrive, si la médiation arrive vraiment à amener les parties à un accord à partir de là, même si c'est un pré-accord, ce serait déjà pas mal. On n'est pas obligé de boucler la négociation dans ce Alger 4. C'est préférable. Mais il est déjà bien qu'à partir de là, qu'on arrête des termes concrets. Si on arrête des termes concrets que les gens peuvent respecter, on donnera le temps aux différentes parties de négocier le projet. Parce que le projet d'accord, là, qui est en tout cas celui que nous on a vu
actuellement,
le projet d'accord que nous avons vu est un projet inacceptable pour plusieurs raisons. Maintenant, comment les positions vont changer dans cet Alger 4, je ne le sais pas. C'est pourquoi il aurait été bien de donner le temps aux deux parties d'avancer sur le projet, de traiter le projet et d'avoir vraiment des points de compromis sur lesquels ils peuvent se défendre. C'est ça qui est important. La dernière chose que je voudrais dire, c'est que moi je sens quand même une mauvaise odeur dans cette histoire. On se rappelle que la dernière fois, le Mali a été précipité dans une négociation qui a abouti à ça. Parce qu'on a profité du moment où l'armée malienne était en position de faiblesse et que ces gens ont pris le dessus pour ramener les gens précipitamment là-bas. Aujourd'hui, on sent que le Mali et alliés sont en train de reprendre une position de force. Il faut amener les gens sur la table avant que les autres ne soient totalement impuissants. Je pense que ça sent un peu le piège. Donc c'est ça mes inquiétudes.
Alors Sidi Ahmed Albaka, vous êtes membre du GATIA. Et quelle est votre position sur ces chances-là? Est-ce que vous êtes d'abord représenté à Alger?
Bien sûr, nous sommes à Alger. Mais moi je pense que c'est vraiment trop tôt de parler de discussion pour un accord, du moment où nous, les républicains, nous sommes attaqués par la coordination, ne serait-ce que ce matin. Même aux environs de 14h, on a des positions qui ont été attaquées par la coordination entre Tabankort et NFIF. Et une fois de plus, on les a repoussées. Et au même moment, dans le secteur d'Intilil Tetesit, le MNLA est en train d'essayer de déstabiliser la zone. Et heureusement que nos hommes sont encore debout et ils veillent. Et je ne sais pas, devant la communauté internationale, qui a l'information, qui a la capacité de voir à travers les images des satellites, tout ce qui bouge, tout ce qui vient de la Mauritanie, ce qui vient de la Libye, vous nous parlez encore de discuter d'un accord. Discuter d'un accord et en même temps mener une guerre sur le terrain, ça ne tient pas. Il faut d'abord qu'on signe un cessez-le-feu ou qu'on les respecte. Il faut que chacun reste dans sa case. Chacun arrête d'attaquer l'autre. Là, on peut parler d'un accord. Mais si nous, la coordination continue de nous attaquer dans l'esprit de pouvoir nous déloger dans nos positions, et on nous amène à Alger pour nous. On va discuter de quoi?
Alors, à ce 10e rendez-vous d'Alger, le Premier ministre malien compte s'y rendre. Est-ce que cela ne va pas poser problème, Ousmane Cornio?
Oui, je ne sais pas quelle serait sa position, parce que la dernière fois, il avait un rôle. Il était le haut représentant du chef d'État dans ses pourparlers. Aujourd'hui, en tant que Premier ministre, il est le président du chef du gouvernement. Moi-même, je pose la question vraiment, quelle serait sa position? Son rôle.
Quand on sait que la médiation est dirigée par le ministre des Affaires étrangères algérien.
alors qu'il y aura un ministre des Affaires étrangères malien, je ne sais pas ce que le Premier ministre va faire.
Non, je pense plutôt que la présence du Premier ministre n'est pas une mauvaise chose. Au contraire.
Est-ce qu'il va participer
Le Premier ministre, on ose imaginer que c'est le Premier ministre qui fera le reste du mandat, sauf cas exceptionnel. Ce Premier ministre a été le haut représentant du chef de l'État, il a suivi le processus jusque-là. Aujourd'hui, il est chef du gouvernement et c'est le gouvernement qui s'engagera dans tout accord. Si le chef du gouvernement en personne est présent, peut-être que ça peut être un signe fort de l'État malien pour dire voilà, nous avons l'intention d'aller à la paix et nous envoyons directement le haut représentant du gouvernement, donc le chef vraiment du gouvernement, qui était non moins haut représentant du chef de l'État dans ce processus, qui donc est censé maîtriser les dossiers dans cet élan et aboutissant. Je pense que ça peut être un signal fort. Maintenant, derrière, comme l'a dit Sidi, le vrai problème, c'est que nous sommes en train d'aller dans un accord où rien n'est préparé en amont. Et c'est là où c'est catastrophique. Parce que le revers de la médaille est possible. Hein. Le revers de la médaille est possible. Un État ne se laisse pas traîner dans n'importe quoi. Même si la communauté internationale veut une paix, il faut que l'État malien exige que les conditions soient réunies. Et moi, je dis, excusez-moi, en dernière position avant que vous me retirez la parole, je dis encore une fois, je reviens là-dessus, je l'ai dit dans les émissions précédentes, n'oublions pas que derrière le crépitement des armes, il y a des conflits communautaires, il y a des problèmes d'histoire, de sociologie, de géographie. On ne peut pas créer la paix si on ne s'attaque pas au fond du problème. En éteignant des flammes, on n'éteint pas un feu. Il faut aller à la braise.
Alors aujourd'hui, voilà. Puisque vous en parlez, Mamadou Diouara, nous avons un membre du Gatia. Les communautés qui s'affrontent aujourd'hui, les communautés Touareg qui s'affrontent entre elles aujourd'hui, c'est Imgad, Ifugas. Est-ce que ce problème-là existe réellement et comment peut-on venir à bout de ce problème, Sidi Ahmed Aga Albaka?
De toute façon, même si ce problème existe, c'est pas notre problème aujourd'hui. Ce n'est pas les Imrades contre les Iforas, non. C'est des républicains maliens contre des séparatistes. C'est aussi ça. Mais, comme vous l'avez dit, depuis des années, surtout en 1991, les Iforas, à travers le soutien du gouvernement malien, naturellement, ont vraiment commis du tort au nord du Mali, plus précisément à Kidal. Maintenant, il faut juste comprendre que les Imrades sont la communauté la plus nombreuse parce qu'ils existent à Kidal, à Gao et à Tombouctou. Et vous conviendrez avec moi qu'aujourd'hui, dans notre monde, personne ne va accepter d'être esclave à personne. C'est vraiment le monde de la démocratie, c'est la liberté, c'est les droits de chacun d'être chez lui. Il faudrait qu'à un moment donné, que les Ifoas comprennent que les Imrades ont aussi droit au pouvoir. Les Imrades ont droit à la vie. Les Imrades ont droit à la respiration, comme tous les autres humains. Je pense que c'est aussi un problème qui mérite d'être géré. Absolument. Mais je vous dis que ce n'est vraiment
Est-ce qu'aujourd'hui c'est possible?
Oui, bien sûr. C'est possible. C'est un problème causé par des hommes. Il peut être réglé par des hommes. Absolument. Maintenant, il faut juste qu'on arrive à se dire...
Quelles peuvent être les concessions aujourd'hui?
La justice. Merci. Il faut qu'à un moment donné qu'on essaie de ressortir le document pour dire voilà, entre 91 et 2006, voilà les pauvres Imrades qui ont été exécutés par les Ifoas juste parce qu'ils n'ont pas voulu céder. Et voilà ce que les Imrades ont fait. On passe souvent devant un juge ou bien on se pardonne, mais en tout cas il faut que ces crimes on les dise haut et fort et que les orphelins qui sont en train de tourner aujourd'hui à Kidal, acceptent de pardonner. Sans ça, moi, je pense pas que c'est pas possible. Moi qui vous parle, je fais partie de ces orphelins, et je pense pas que je peux aussi pardonner facilement.
Alors, on parle de justice.
Je voulais juste ajouter quelque chose à ce qu'il a dit. Non, juste pour compléter, c'est important.
Mamadou Diouara, nous allons pratiquement aller en pause et je vais donner la parole à Ousmane Kornio. Ousmane Kornio, vous maîtrisez cette question de conflit intercommunautaire. Aujourd'hui, on parle de ce conflit entre deux communautés Touareg du Nord. Est-ce qu'avec la justice, on peut venir à bout de cette difficulté?
Bon, moi, je crois que la justice en matière de gestion de conflits, la justice est le dernier rempart, surtout du conflit intercommunautaire. Le premier, c'est d'abord la vérité. Qu'on sache la vérité des faits, la vérité des actes, la vérité des victimes. Et ensuite, qu'on essaie de penser à la réparation. La réparation de cœur, c'est-à-dire accepter, pardonner ce qui est pardonnable. La réparation matérielle, ceux qui ont perdu, ceux qui ont été victimes, essayer de voir comment les réparer. Et quand on arrive à des victimes, qui ne peut pas pardonner, des actes qu'on ne peut pas pardonner, alors vient en dernière position la justice. Quand on commence par la justice, en matière de gestion communautaire, on n'arrivera pas. Quelle que soit sa forme, on a vu des pays qui ont complètement laissé de côté la justice. L'apartheid, quand en Afrique du Sud, on n'a jugé personne. Ils ont décidé de tout pardonner. On a vu au Rwanda, la justice est venue en dernière position. Et il ne s'agit même pas de la justice, mais il s'agit de gachacha. C'est de la justice communautaire. Parce que quand on commence par la justice, dire ouais, écoutez, tu as raison, tu as tort, tu as tué, on doit te juger, on n'en finira pas en matière de gestion communautaire.
Donc qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui?
Maintenant, moi, ce que je suis en train de dire, j'ai dit que le Mali se trouve à une position, je l'ai dit lors d'un dernier débat, que c'est vraiment la plus pire position qui peut se passer en matière de gestion d'un conflit communautaire. C'est-à-dire qu'un gouvernement soit absent du territoire, laisse les populations, et que les populations soient amenées à s'armer, à se défendre. Ça, c'est une situation qu'un pays ne doit pas accepter. Une deuxième situation...
Mais c'est un fait.
Oui, c'est un fait, malheureusement.
Et ce n'est pas nouveau.
Je dis c'est malheureusement.
Et ce n'est pas nouveau.
Ça ne devait pas arriver. Non. On devait tout faire pour que ça n'arrive pas. Et je crois que le pays a péché pour ça. Le gouvernement a péché pour ça. On doit tout faire pour que ça n'arrive pas. Et je crois que si le Gacha, aussi le groupe autodéfense, avait eu des solutions, il ne prenait pas les armes. Si le gouvernement avait pu protéger leur communauté, il ne prenait pas des armes.
Sur ces mots, nous allons observer quelques secondes de pause avant de partir avec la troisième et dernière partie de cette émission. Je m'excuse, Ousmane Cornio, mais nous sommes obligés d'aller en pause.
Action.
Un avis.
Un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Les réseaux sociaux pour écouter cette émission ainsi que toutes nos productions du Studio Tamani et bientôt à travers plusieurs radios en plus des 20 que vous connaissez actuellement dans tout le pays. Et nous sommes donc présents sur les réseaux sociaux, notre page Facebook, notre compte Twitter, mais également notre site web www.studiotamani.org. Je rappelle qu'aujourd'hui nous parlons de ces chances que Alger 4 pourrait avoir aujourd'hui pour réunir l'ensemble des acteurs du conflit malien afin de trouver un accord définitif à la crise qui secoue le pays. Et nous sommes à la troisième partie de cette émission, une réunion à Alger qui est donc provoquée par la MINUSMA et l'ensemble des parties prenantes de la médiation pour ce conflit à Alger. Je rappelle que la délégation malienne quitte Bamako à partir de demain. L'annonce a été faite par les deux ministres, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement et le ministre des Affaires étrangères. Tout à l'heure, si ça ne se poursuit actuellement dans les locaux de la Maison de la Presse, ici à Medinakura. Nous sommes donc à la troisième partie de cette émission. Est-ce que l'option militaire est évitable aujourd'hui, si l'on en croit aux actions qui se passent sur le terrain? Sidi Ahmed Albaka, vous êtes membre du GATIA et vous riez de cette question.
Oui, absolument. Parce que non seulement je suis du GATIA, mais j'ai eu la chance d'assister à tout ce qui s'est passé à Kidal le 17 et le 21.
Lors de la visite de Moussa Mara.
De Moussa Mara et de l'attaque contre les camps de l'armée malienne. Vous dites qu'est-ce qu'on peut ne pas utiliser les armes. Je vais vraiment être franc avec vous. Je suis vraiment désolé, mais tôt ou tard, on va les utiliser, les armes.
Qui va utiliser les armes?
Le gouvernement malien.
Et
non. Ces problèmes, en fait, cachent encore d'autres réalités. Je ne vais pas me permettre de les dire aussi.
Nous sommes là pour ça, les faits.
Bon, une autre fois peut-être, mais je pense qu'à un moment donné, il va falloir que le gouvernement malien prend son destin en main et s'assume. Une armée, elle doit être là pour assurer la sécurité des populations et de leurs biens, sans distinction aucune. Une armée souveraine, dans un État
souverain
et démocrate, ne peut pas être cantonnée et interdite d'assurer la sécurité dans une partie du pays.
Alors, juste une parenthèse, qu'est-ce que vous faites des accords de cessez-le-feu que l'armée régulière se doit de respecter aujourd'hui et
pourquoi?
Le ministre de la
Moi,
Défense
je me pose juste une question. Pourquoi c'est seulement le gouvernement qui doit être le bon élève? Pourquoi c'est seulement l'armée qui ne doit pas violer le cessez-le-feu?
C'est un État.
Cet État, il perd des hommes et des femmes, il perd sa dignité.
Mais
un État sans la dignité n'existe absolument pas. Je suis vraiment désolé. Quand on attaque l'armée malienne, la communauté internationale
condamne juste avec un papier, un communiqué, c'est fini. Mais il faut qu'il y ait des faits. De même côté, quand vous voyez un peu l'analyse, je vous dis, on va sortir d'Alger avec un document qui fasse l'unanimité ou pas. En tout cas, il y aura un document, mais ce ne sera pas la paix. Une paix, ça s'impose, mais ça s'impose avec les moyens. Il faut que le gouvernement malien aujourd'hui se mette dans l'idée qu'il a une responsabilité. Il a une mission à assurer. Et cette mission, tant que les élèves de Tinzawaten ne vont pas à l'école matin et soir avec les drapeaux du Mali, le gouvernement malien a failli à sa mission.
Alors, Mamadou Diouara, vous êtes sociologue. On parle de la façon d'éviter les actions militaires sur le terrain. Est-ce qu'une intervention militaire de quelque bord que ce soit est envisageable aujourd'hui pour parvenir à un accord?
Moi, je pense que si nous voulons un accord réel qui nous conduise à une paix, parce que la finalité, c'est la paix, l'accord, c'est pour nous y conduire. Si nous voulons ça, il faut que l'État existe. Et pour que l'État existe, il faudrait que l'État applique la force.
Alors, je reviens,
il en a les moyens.
Je reviens cette parenthèse que j'ai évoquée tout à l'heure. Est-ce que l'armée régulière peut s'engager de la même façon que les groupes armés, à savoir que l'État est signataire de plusieurs conventions? Est-ce que ce cessez-le-feu-là peut être violé par les forces armées maliennes?
L'armée malienne n'a pas eu besoin de violer un cessez-le-feu qui a été déjà violé par l'autre partie. En l'attaquant quand le premier ministre chef du gouvernement est parti. En venant attaquer, parce que les MNLA devaient rester dans ces positions. Mais aujourd'hui, les MNLA ont attaqué et ils ont voulu venir à Gao. Je vous donne une information. Au lendemain de la dernière rencontre d'Alger, j'ai une vidéo enregistrée dans laquelle Al-Ghabas Agntallah réunit la jeunesse de Kidal.
Je l'ai
et
aussi.
Il les dit, je parle sous votre contrôle, il dit que tous les jeunes qui sont en âge aujourd'hui se battent doivent se mobiliser pour faire la guerre à leur seul ennemi d'hier et d'aujourd'hui, le Mali. Je ne déforme aucun propos.
Non, je l'élément.
Est-ce que vous voyez? Donc, quelle crédibilité accorde-t-on à ces gens qui sont sur la table au nom de ces groupes armés?
Et mieux que et ça, moi je me rappelle à Kidal, les MNLA a dit publiquement que...
On va ordonner le débat. Mamadou Diouara, vous terminez avec
Vos propos. Donc ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il est absolument important que l'État malien redevienne l'État de tous les Maliens, qu'il se donne les moyens d'assurer la sécurité de tous les Maliens et qu'il ne laisse plus aucune force, ni internationale ni nationale, l'empêcher de jouer son rôle régalien qui justifie son existence.
Ousmane
Parce
Kone.
Que si cela n'existe pas, il n'y a simplement pas d'État.
Ousmane
et
Kone.
Il n'y aura pas de paix.
Oui, pour moi, la solution n'est pas militaire. Par définition, la force ne résout jamais un conflit. L'accommodation ne résout jamais un conflit, c'est avoir peur de l'autre. Pour moi, les négociations, les pourparlers qui sont à Alger doivent parvenir à un accord tel que tous les groupes armés et le gouvernement partagent la même préoccupation, c'est de protéger
les populations.
Okay. Et là, ce n'est pas par les armes qu'on va arriver à cet accord. Quand cet accord sera signé, on va se rendre compte que et les groupes armés et le gouvernement ont tous un seul ennemi, ce sont les terroristes qui sont à la base de toute cette situation. Et c'est là peut-être que
l'action
la force
militaire peut entrer en jeu.
Et là, et le gouvernement malien, les forces armées maliennes et tous les groupes armés pourront alors coaliser leurs forces pour essayer de lutter contre ces terroristes qui sont l'ennemi commun. Et c'est là seulement que je vois la force. Sinon, ce n'est pas par la force qu'on peut signer un accord. Un accord signé par la force ne perdure jamais.
Une petite réaction. C'est-à-dire que le chemin tel que vous l'avez dit est trop facile. C'est-à-dire, quand vous dites les groupes armés, et si moi je vous dis que ces groupes armés, les islamistes que vous cherchez sont les meneurs de ces groupes armés.
Bien sûr.
Et je vous dis que les islamistes que vous êtes en train de chercher à Tirar et un peu partout au monde sont les responsables légitimes de ces mouvements armés. Vous allez faire comment?
Oui, par la signature, j'ai dit que j'avais dit au départ
des terroristes,
que la signature
Ousmane,
de l'accord
de
permettra simplement d'identifier et de donner un visage à chaque acteur. Quand ils auront signé, et groupes armés, et Gatia, groupe d'autodéfense, gouvernement, tout le monde aura
signé. On pourra
signé
faire le tri dans ce cas.
En ce temps, et qu'on verra que certains vont se retirer, et soit bien, pour se positionner comme terroristes, alors eux, ils seront le gouvernement, et non, eux, ils seront l'ennemi commun, et tous les autres vont les abattre.
Puis-je juste... Je vais juste rappeler que
Mamadou Diawara.
Ceux qui sont aujourd'hui sur la table de négociation sont les mêmes qui étaient avec Yadda en Sardine, qui étaient en alliance avec ces gens. Et je vais corriger un petit aspect, si vous me le permettez, avec toute la modestie qu'il faut, que les groupes terroristes ne sont pas initiateurs. Le MNLA est initiateur de cette rébellion dans laquelle nous sommes et a entraîné les groupes terroristes dans une alliance avec eux. C'est eux ensemble qui sont venus attaquer et occuper les villes et commettre les exactions ensemble. Je dis bien ensemble. Aujourd'hui encore, ils combattent ensemble, ils sont en alliance ensemble. Aujourd'hui encore. Et Al-Gabbas Agntala n'est ni plus ni moins que celui avec lequel Yadda fait tout ça. Les hommes, on connaît même leur nom, on connaît leur visage, qui étaient hier dans le groupe terroriste, qui sont aujourd'hui avec eux. Et nous savons que la dernière fois, quand le Premier ministre a quitté là-bas, Moussa Mara a quitté là-bas, les groupes terroristes étaient présents dans le combat. Je parle, non, il n'y a rien qui soit nouveau. Par contre, je suis d'accord sur un point.
Lequel ?
La paix ne se trouve pas seulement par les armes. Mais en abandonnant les armes, en abandonnant la force, on n'a jamais la paix. Comme on l'a dit, pour avoir la paix, il faut préparer la guerre. Pour être respecté sur la table de négociation, il faut avoir des positions sûres. Il faut être craint. Et un État se doit de se faire respecter. Si vous n'acceptez pas parce que vous le devez, vous accepterez parce que vous y êtes obligé. Mais quand l'État montre qu'il n'est pas capable d'imposer ce qui est nécessaire pour la sécurité et la paix, eh bien cet État sera piétiné. C'est ce qu'on ne veut pas pour le Mali.
Alors, les chances d'Alger 4, si ces chances-là sont aujourd'hui acquises, est-ce que l'accord qui découlera de cette énième rencontre d'Alger pourront être respectés par les partis Sidi? Si oui, quelles sont les conditions pour
maintenir un accord qui respecte l'intégrité territoriale du Mali, sa forme laïque et républicaine, si c'est un accord qui garantit à tout Malien la dignité, la liberté, qu'il soit de Kidal ou de Kay, nous n'allons pas hésiter. On va le signer, on va le respecter. Mais si c'est un accord qui prévoit une autonomie ou un fédéralisme ou quelque chose qui touche à la dignité du peuple malien, soyez sûr et certain que nous n'allons pas le signer.
Alors, Ousmane Kornio, aujourd'hui, on parle du retour de la paix dans le septentrion malien. Le MNLA est aujourd'hui présent. Les membres de la coordination détiennent la ville de Kidal. Comment est-ce que cette gestion du territoire va se mettre en place? Quel sera l'accord type qu'on peut attendre pour la gestion de la situation à Kidal, du territoire?
Oui, je crois que l'accord, qu'on le veuille ou pas, on sait qu'on va signer un accord. Aujourd'hui, et les groupes armés et le gouvernement, ils ont tous le couteau sur la gorge. Et la communauté internationale veut qu'il y ait la paix. Il veut qu'il y ait la paix. Partout, le Conseil de sécurité, la France, ou pas la France, tout le monde dit qu'il faut la paix. Maintenant, cette paix qui va être signée, je crois qu'elle ne serait pas. Les accords qui vont être signés ne seront pas comme les autres accords. Il y aura peut-être un échelonnage de la mise en œuvre de cet accord. Il ne s'agit pas de dire on l'a signé et puis c'est fini, il y a la paix. Non. La paix, ce n'est pas pour un an encore, ce n'est pas pour deux ans encore, ce n'est pas pour trois ans encore. Elle va se faire progressivement, par des étapes. Une première étape serait la signature de l'accord et l'expression de la volonté de tous les acteurs d'aller vers la paix. Alors maintenant, cette expression va être échelonnée. D'abord, qu'on se mette ensemble, qu'on se désarme, qu'on donne la primauté à l'État et qu'on fasse respecter les règles de cette paix par tous les acteurs.
Alors, est-ce qu'à l'état actuel, l'armée malienne peut revenir réoccuper Kidal?
Mais aujourd'hui, là, Kidal, là, en fait, si on avait laissé l'armée malienne libre à rentrer à Kidal, elle aurait pu prendre Kidal. Mais je ne vois pas les MLA.
C'est ce que les observateurs disent.
Non, moi je ne vois aucune puissance du MLA qui peut empêcher les autres groupes et l'armée de rentrer à Kidal.
Alors quel est l'accord type aujourd'hui qu'il faut attendre de ces pourparlers?
Oui, l'accord type, c'est qu'en fait
l'occupation du territoire.
Oui, l'occupation du territoire, ça veut dire que moi je dis qu'il faut désarmer. C'est-à-dire on ne peut pas signer un accord et puis dire écoutez à chaque groupe de garder encore ses armes. Tous les groupes doivent se désarmer. Et la primauté reviendra alors à l'État pour superviser l'accord avec des représentants de ces groupes armés et des représentants de la communauté internationale pour la mise en œuvre échelonnée de ce processus qui sera signé d'accord parti.
Alors, malheureusement, même moi, je suis surpris par le temps qui nous a été imparti, car c'est déjà la fin de cette émission, une émission qui réfléchissait sur les chances d'Alger 4. La relance des pourparlers à Alger est prévue donc pour demain, et la délégation malienne quitte en principe Bamako demain matin pour se rendre à Alger. Je rappelle que les membres de la coordination et de la plateforme sont déjà à Alger pour, à l'occasion donc de cette réunion d'urgence provoquée par la MINUSMA suite aux attaques et aux tensions qui existent actuellement au nord du Mali, notamment à Tabankort. C'est donc la fin de cette émission, une émission qui regroupait autour de cette table trois invités: Ousmane Cornio, spécialiste des questions de sécurité, Mamadou Diouara, sociologue et également un membre du GATIA. Malheureusement, nous n'avons pas pu joindre les membres du MNLA pour participer à cette émission. Le membre du GATIA est donc Sidi Ahmed Ag Albaka, membre du GATIA, qui était donc dans ce studio avec nous. Je suis Famoussa Sidibé. Salim Diouara était à la technique, Ousmane Diadé Touré a réalisé cette émission, Nouhoum Diré était à la régie vidéo. Nous vous disons à demain pour un autre débat.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Edowani wa Makaran.
Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenibiro.
Halou de Mouni.
Chenibiri. Sigi Kafoba.
Le grand dialogue.
Le grand dialogue.